Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs. Nous allons parler aujourd'hui de la science et du créationnisme. Les religions ont de tout temps oppressé la science, qui leur opposait un système de pensée matérialiste pour rendre compte du réel. C'est le rationalisme. Mais le réel n'a pas toujours de prise sur la magie et les croyances si l'éducation n'intervient pas. Or, les autorités spirituelles sont bien plus accommodantes que la science pour promettre de radieux avenirs extraterrestres, apaiser l'anxiété des mortels et utiliser la culpabilisation des humains pour contrôler nos actes et nos pensées. C'est donc dans le contexte de la pensée magique que s'est élaboré un récit fabuleux de l'origine du monde qui permet de fonder la fable religieuse. Tout cela n'aurait pas beaucoup d'importance si les monothéismes ne prétendaient pas nous imposer leur manière de penser. Or, pour imposer la prépondérance morale sur notre vie quotidienne, les monothéistes ont investi le système éducatif. Et c'est ainsi que la légende de la création va être imposée comme le récit obligatoire de nos origines. Le créationnisme est un mensonge obligatoire répété aux enfants dont chacun doit se débarrasser dès que cela lui est possible. Car le créationnisme n'est pas simplement un mensonge, mais une récrimination qui interdit de réfléchir et qui veut condamner la science. En fait, il existe bien des récits mythologiques dans toutes les sociétés. On raconte le monde à partir des ancêtres en construisant des poèmes rassurants. Par exemple, chez nombre d'Amérindiens, le monde serait apparu lorsqu'un dieu aurait déroulé un tapis sur les océans. La féerie infantile de ces récits émerveille tout de suite l'esprit puisqu'elle donne à la fois une référence au départ de l'humanité et une possibilité de puissance magique. Mais voilà, il y a un moment où il faut quitter la magie de l'enfance pour se confronter au réel. L'illusion religieuse est une mauvaise protection contre la peur de la mort puisqu'elle ne réduit cette angoisse qu'à une unique condition, celle de la phobie de forces supérieures. Bref, on tombe de Carib en Scylla. Bonjour Siona. Alors, en forme pour se débarrasser de Dieu ?
Salut Thierry, ravi de se revoir devant le micro de Radio Libertaire. Oui, nous allons essayer de discuter de ces fables. Mais ce mythe est bien ancré et il est bien profondément inscrit, n'est-ce pas Thierry ?
En effet, tout le monde connaît le mythe de la création, tel qu'il est raconté par les juifs, les musulmans ou les chrétiens. Ce mythe pose à la fois des ancêtres uniques et une histoire morale. Ce créationnisme impose par conséquent une morale prétendument universelle. Et c'est précisément à cause de cette morale universelle que les religions exigent le maintien de la fable créationniste. Alors, c'est bien un crétinisme que de raconter cette histoire mythique comme une réalité. Mais le rôle de ce crétinisme, c'est aussi de rendre confus le réel, de nous obliger à accepter n'importe quoi. Parce que l'objectif, C'est quoi l'objectif ? C'est de rester toujours à affirmer la primauté de la croyance sur notre raisonnement. Et l'argument créationniste tourne en rond. Puisque le monde est là, il lui faut une origine. La seule manière d'imposer cette tautologie, c'est donc de l'imprimer dans l'esprit des enfants et de crier à l'hérétique si quelqu'un en doute. C'est pour cela que les religieux attachent tant d'importance au fait de croire en la création. Autrement, ça ne serait jamais qu'un récit. Mais pour croire à cette création, ils voient s'appuyer d'abord sur l'existence physique du monde. Le monde est là, donc il a fallu que quelque chose le fasse apparaître. C'est pourquoi le crétationnisme, ou le créationnisme si vous préférez, s'est d'abord attaqué à la physique. Avec l'avènement du christianisme surtout, les religieux vont imposer que la Terre soit au centre de l'univers en respectant en cela les premiers systèmes chrétiens, dont celui de Ptolémée.
C'est parfaitement bien illustré dans le film Agora, réalisé par Alessandro Amenábar, qui raconte comment l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie fut fomenté par les chrétiens vers 350. Combien de morts et de catastrophes au nom de Dieu, n'est-ce pas ?
Oui, il semble que la conquête arabe a poursuivi cette destruction de la bibliothèque et des travaux anciens, ce qui a conduit à la disparition totale du fonds bibliothécaire, probablement vers 642 sur l'ordre de Omar ibn al-Khattab. Enfin, on ne sait pas trop à quel moment exactement cela s'est passé. Il y a eu en tout cas un acharnement contre la physique qui a persisté pendant tous les premiers siècles, et notamment en Europe, puisque Giordano Bruno a été condamné au bûcher le 17 février 1600, et que Galilée dut renier les découvertes de Copernic en se censurant lui-même en 1616 et surtout lors de son procès de 1632. Mais peu à peu, la physique va s'imposer et donc du coup, la religion va se retourner contre autre chose. La religion va se retourner contre la biologie.
J'habite à côté du paradis. Un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y ai planté mes rythmes créoles, des arômes polyrythmiques, des petites fleurs pentatoniques.
Fragiles et si secrètes ont leur façon de se taire. Que lier toute magie à leur cause ont leur façon de se taire.
À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Andonia, 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 Andonia.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission faite pour se demander ce qu'on fout sur Terre, bordel.
Alors, le succès de l'évolutionnisme, couplé à la montée du puritanisme des sociétés, a entraîné une nouvelle forme de créationnisme, puisant dans des fondamentaux des raisons pour refuser la biologie plus que toutes les autres sciences. C'est principalement parce qu'ils sont inquiets de l'absence de finalité du vivant. Et c'est à cause de cette inquiétude que les religions vont baser tout leur système. Ce créationnisme moderne réfute l'hypothèse d'une ascendance commune des êtres vivants et refuse le matérialisme de l'évolution biologique. La création va permettre de réhabiliter à la fois des idées issues de la puissance magique infantile, comme la résurrection ou le miracle, mais aussi des récits légendaires, fondateurs et prescriptifs, comme la Bible, le Talmud ou le Coran. Mais au-delà de ces chimères qui réconfortent le sens de la vie, l'objectif des puritains a toujours été de tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions biologiques pour fonder une morale. Et c'est en cela que l'évolutionnisme, qui lui est ancré sur un matérialisme agnostique, voire même un matérialisme athée, c'est pour ça que cet évolutionnisme-là leur est insupportable. Et donc ils appellent à un retour d'un fondamentalisme téléologique. Un fondamentalisme qui a un but, hein, qui attend une finalité du monde, et bien sûr anti-scientifique, Et là, il y a tout un renouveau du créationnisme qui va exploiter tous les moyens pour obtenir une emprise sur les esprits.
Certains ne disent-ils pas que le créationnisme est même une théorie au même titre que la théorie de l'évolution, par exemple ? Que peut-on répondre à cela, Thierry ?
Alors, bien que le créationnisme se présente en effet parfois comme une espèce de théorie alternative, hein, c'est principalement le cas aux États-Unis où on prétend vous-même enseigner le créationnisme, elle n'a rien de scientifique. Pour une raison toute simple, c'est qu'elle nie toute analyse du vivant. Elle ne s'appuie que sur une révélation religieuse qu'on appelle la création. Comme il n'y a évidemment qu'une création, il ne peut pas y avoir de méthode crétationniste pour comprendre la vie. La seule méthode, c'est de dire, ben, ça existe, point, c'est là, et donc le vivant est là. Alors après, on vous raconte une fable quelconque sur depuis combien de temps il est là, mais ce sont des calculs basés sur le récit mythique, qui est la Bible, ou qui est n'importe quel autre ouvrage de ce type. Alors on nous dit que la vie est là parce qu'elle a été créée, un point, c'est tout. Au contraire, l'évolution biologique est une théorie, parce qu'elle explique la biodiversité du vivant. Elle est une explication de la biodiversité du vivant. On essaie de trouver les raisons physiques de sa présence. Et les différentes théories biologiques testent et analysent ces raisons, testent comment les êtres vivants se diversifient en de si nombreuses espèces.
Donc, ainsi, les biologistes testent leurs hypothèses, les critiquent et les confrontent au réel. Il existe une démarche méthodologique qui aboutit à la constatation de la réalité objective du fait évolutif.
Oui, l'évolution est un fait qui est prouvé par de nombreux éléments, par des organes qui ont changé, par des fossiles. Tout à fait ça. La science, ça va découler de l'application de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Actuellement, c'est plutôt la méthode dite hypothético-déductive qui propose de tester différentes hypothèses. Or, l'évolution, c'est aussi une histoire biologique dont on peut rendre compte à travers la paléontologie, c'est-à-dire l'analyse des fossiles et de toutes les traces, et à travers la biologie évolutive, c'est-à-dire l'étude des êtres vivants en rapport avec les contraintes qui vont les faire changer. C'est cela, l'évolution.
Alors, le créationnisme est tout simplement un mensonge qui veut forcer les gens à ignorer que nous pensons, que nous réfléchissons, pour nous obliger à croire.
Oui, c'est ça, c'est une croyance. La croyance consiste en fait dans l'exigence d'une primauté morale, d'une primauté culturelle, de ce récit mythique. Alors évidemment, il s'agit bien d'un obscurantiste qui agit sur tous les fronts réactionnaires, en prétendant réprimer la liberté des femmes, l'orientation sexuelle des personnes, et plus globalement, une éthique humaine qui ne serait pas une éthique qui serait une éthique athée, par exemple. À partir tout ça d'un corpus d'opinions qui sont considérées comme absolument inamovibles et qui sont exposées de manière très très agressive, notamment auprès des enfants. Insistant pour exiger une société, bon, pas toujours théocratique, mais au moins une vie sociale soumise à des préceptes dévots, l'objectif des créationnistes est beaucoup plus politique que religieux. Les ambitions sacerdotales qui sont portées par ces intégrismes prônent un asservissement des corps à une logique dite naturelle, qui est évidemment une nature réinventée, puisqu'elle est directement puisée dans des fantasmes conservateurs.
Donc, en fait, la nature traditionnelle et familiale dont ils parlent n'existe pas. C'est juste une naturalité qui les arrange pour justifier leurs mensonges.
Oui. La nature que ces gens-là racontent constitue pour eux la justification principale. Mais c'est une nature qui est complètement inventée. À partir de tous leurs arguments réactionnaires, c'est une nature fantasmée, une nature imaginée, comme eux veulent le monde. Hein, la nature de la famille, la nature des relations entre les personnes, tout ça, ce sont des hypothèses qu'ils ont émises sans jamais les tester, mais qui sont pour eux des arguments. On comprend alors, bien entendu, que ce créationnisme semble se vouer principalement à la contestation de l'évolution. Mais dans la réalité, il participe de tout un ensemble de réactions idéologiques qui visent aussi bien le secteur médical, hein, le refus religieux de la vaccination par exemple, l'objection à l'avortement et plein d'autres domaines biologiques ou sociologiques, y compris d'ailleurs les recherches sur la sexualité ou encore les recherches sur la théorie du genre. On va voir revenir ce créationnisme affublé de ces nouvelles théories. Donc c'est un créationnisme moderne, mais en fait il ne constitue que l'un des pans de l'intégrisme ancien qui joue sur la thématique religieuse. Et en jouant sur cette thématique religieuse, il tente d'abord de convaincre les croyants d'orienter un peu la vie des sociétés en fonction de ces règles étriquées. Mais ensuite, il tente aussi de disposer d'un pouvoir qui va permettre, notamment d'un pouvoir éducatif, qui va permettre d'assujettir toute la société entière.
Oui, alors donc, en fait, leur nature est une invention qui les arrange pour afficher des thèses rétrogrades. C'est pourquoi il s'agit d'une fausse nature, toujours conservatrice.
Oui, c'est ça, c'est un obscurantisme. Cet obscurantisme propose une famille naturelle comme une institution sacrée qui est conçue d'une manière totalement stéréotypée et patriarcale. Il n'y a aucune possibilité de souplesse. Hein. Ce sont des idées puisées dans la nature. Les femmes seraient là pour la reproduction. Donc il y a une finalité derrière tout ça, une hypothèse qui fait que la constitution familiale se restreint à l'objectif reproducteur. Évidemment, ça va récuser toute homosexualité, toute homoparentalité, ça va combattre toute émancipation féminine au nom de la supériorité patriarcale de l'homme, du mâle. Et tout ça, c'est plus ou moins caché derrière des descriptions particulières de la nature. En fait, les descriptions biologiques approximatives qui sont utilisées comme justificatif de la rigueur des règles souhaitées. Et toutes ces descriptions vont permettre de fabriquer une prétendue naturalité qui permet également d'assigner des rôles totalement stéréotypés aux êtres vivants. Chaque être vivant va avoir un rôle dans la nature, une fonction, et pour ça, l'écologie s'en sert, puisqu'ils sont capables de dire que le prédateur, il a le rôle de tuer les proies, etc. Vous voyez, une espèce de fonction, de finalité absolue qui enferme le système dans une idée qui paraît biologique. Mais ces intégristes n'envisagent pas une autre biologie que celle qui pourrait, que celle qui va concourir à légitimer toutes ces normes. Et donc, ils récusent nécessairement les notions évolutives et les recherches sur la sexualité, puisque tout ça, ça pourrait admettre une autonomie d'un processus historique par rapport à la reproduction.
We measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure. Say, the dream is over.
John Lennon dans Gold, qui nous rappelait l'inanité de ce concept. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité. On a donc vu que les obscurantistes et principalement le créationniste sont donc présents sur tous les fronts réactionnaires. Car leur objectif, c'est de proposer une société théologique appuyée sur l'hypothèse d'un finalisme. Les choses seraient faites pour continuer comme cela, dans un équilibre plus ou moins parfait. Et donc c'est à travers cette espèce d'élément de la perfection qu'on va retrouver les arguments majeurs, sur lesquels nous reviendrons petit à petit, bien sûr.
Et dans tout ça, en fait, il y a différentes approches. On emploie un mot magique qui est l'intelligent design. Qu'est-ce que c'est dans tout ça ? L'intelligence, quoi ? Qu'est-ce à dire ?
Alors, le dessin intelligent ou intelligent design, c'est en effet quelque chose d'un petit peu différent du créationnisme proprement dit. Alors, à l'origine, en fait, l'objet de cette invention d'intelligent design consistait à édicter la soumission des sociétés à une politique morale, puisque ça a été créé, construit par un petit groupe ultra-conservateur américain. Souvent, on le considère comme un avatar du créationnisme qui se dissimule sous une apparence de scientificité. Cette théorie du dessin intelligent est née dans un cercle ultra-conservateur américain dans le but, petit à petit, d'imposer une société parfaitement puritaine aux États-Unis. Cette théorie de l'intelligent design, évidemment, se cache. Elle ne dit pas qu'elle veut imposer ça. Elle prétend d'abord dire qu'elle est une explication. Et donc, elle explique la nature par l'existence d'une causalité, d'une cause intelligente, qui évidemment est pensée d'origine divine plutôt que par des processus matérialistes. L'idée principale, c'est de dire qu'il y a un espèce de but qu'on voit se dessiner à travers la complexité en cours des êtres vivants. Les êtres vivants seraient de plus en plus intelligents, et au-dessus de tous ces êtres vivants trônerait évidemment l'homme, puisqu'il est quasiment d'origine divine. Alors, ça expliquerait en quelque sorte que ça ne peut pas dépendre de processus matérialistes, puisqu'il y aurait une espèce d'intelligence, une espèce d'élément, de dessin, de projet, qui dessinerait tous les êtres vivants. Alors évidemment, de ce point de vue, on comprend que le dessin intelligent ne constitue en fait qu'une des résurgences du créationnisme qui reste totalement inspiré par les enseignements, notamment de l'obscur révérend William Paley, que Darwin avait déjà contesté. Mais on retrouve aussi tout un ensemble d'arguments extraordinairement anciens qui traînent dans la philosophie et notamment dans la métaphysique et toutes les philosophies religieuses. La supposition centrale de cette biologie, entre guillemets, de cette fausse biologie, c'est que la complexité des êtres vivants ne peut pas dépendre du hasard. Bon, c'est évidemment un préjugé absolu, un postulat absolu. Et comme ça ne peut pas dépendre du hasard, ça requiert une intervention créatrice. C'est à cause de cette complexité que forcément le hasard ne peut pas exister. C'est trop compliqué de fabriquer des êtres vivants, et donc comme c'est trop compliqué, évidemment, cette complexité est irréductible à des phénomènes matérialistes, il faut donc faire intervenir un autre phénomène. Alors, comme la première partie de la proposition est fausse, c'est-à-dire que cette complexité toujours progressive des êtres vivants n'est pas vraie, évidemment, le raisonnement dévoile très rapidement ce qu'il contient de fallacieux.
En fait, il s'agit donc encore d'un créationnisme qui se cache pour toujours affirmer un ultra-conservatisme. Sont-ils si nombreux, ces pseudo-scientifiques ?
Non. En dépit de leurs efforts, ils se restreignent à quelques biologistes, quelques paléontologues. Alors en France, ils sont vraiment très peu nombreux, moins d'une dizaine. On est probablement l'un des pays les moins touchés par cela. Mais il faut bien reconnaître que cette idée de la complexité inhérente des êtres vivants est quand même plus ou moins présente dans beaucoup d'esprits. Et c'est un peu cette hypothèse que qu'on voit souvent à la télé ou qu'on entend souvent dans différents discours, que l'évolution sélectionnerait des êtres de plus en plus complexes, de plus en plus intelligents, qui leur permet quand même de faire passer leurs petites idées en expliquant c'est telle chose qui a bougé, c'est telle petite chose qui a bougé. Et donc, comme ça a pu bouger de cette manière-là, il faut évidemment qu'il y ait un but derrière tout ça, autrement on ne peut pas le comprendre. En outre, évidemment, si ça ne se restreint pas à un petit cercle de nostalgiques conservateurs, c'est parce que ça repose sur une longue tradition religieuse. Une longue tradition religieuse qui remonte à Thomas d'Aquin, qui avait fait comme conjecture, en fait, celle que les êtres vivants étaient de plus en plus complexes. Et puis, ça répond parfaitement à la préoccupation de certains des biologistes croyants qui tentent, eux, de réconcilier sans arrêt la science qui est pourtant matérialiste, avec leurs propres sentiments religieux. En gros, ils essayent de dire, oui, d'un côté, il y a l'explication matérielle scientifique, et puis de l'autre côté, il y a mon avis à moi privé, qui est un avis religieux. Moi, je suis croyant. Et donc, ils disent ça, et comme ils disent qu'ils sont croyants d'un côté, de temps en temps, évidemment, ils sont un peu en porte-à-faux. Et ils recherchent à dire, oui, mais bon, c'est pas très grave, puisque la biologie, en quelque sorte, nous donnerait l'idée d'une science qui va vers l'infini, qui progresse sans arrêt, avec cette progression qui place l'homme au-dessus de tout. Alors, ces explications matérielles immédiates peuvent ainsi rester ancrées dans une biologie apparemment scientifique. D'autant plus qu'on peut repousser sans arrêt, grâce à un artifice, on peut repousser sans arrêt le mythe divin dans autre chose, dans l'intention supposée de l'origine du vivant. Allez, on peut même le repousser à la limite jusqu'au Big Bang en disant « Oh oui, mais il y a quand même eu quelque chose là ». C'est-à-dire qu'à force de repousser l'origine, évidemment, on fait croire qu'il y a quelque chose qui a pu se passer, alors que évidemment le Big Bang a des explications parfaitement physiques. Du coup, cette espèce d'intention surnaturelle qui guiderait l'organisation du vivant vers une espèce de complexité mythique achevée, évidemment, elle impose aussi une hiérarchie naturelle, donc une hiérarchie normative. L'évolution est alors contemplée comme réalisant un espèce de plan fabuleux d'une perfection infinie, mais elle garde évidemment, à l'intérieur d'elle-même, toute cette supposition parfaitement conservatrice et réactionnaire d'une homme morale.
Oui, dans cette histoire, il y a aussi le problème du chaînon manquant.
Alors oui, en effet. Le problème, c'est qu'avec le capitalisme, les religions ont petit à petit perdu leur influence, notamment éducative, dans les écoles, au profit d'une morale capitaliste. Et donc, comme les religions ont un peu perdu ça, elles vont essayer d'investir la pédagogie. Et donc, pour investir la pédagogie, elles vont essayer de revenir sur Darwin pour empêcher les arguments matérialistes. Or, le problème, c'est que Darwin leur a ouvert, en quelque sorte, la porte. Car, chez Darwin, l'un des problèmes majeurs, c'est la lenteur du processus évolutif. Parce que pour que le hasard intervienne, il faut des petites variations. Et ces petites variations, si vous voulez, il ne faut pas qu'elles soient complètes. Si une variation entraîne la mort de l'individu, évidemment, l'évolution ne peut plus avoir lieu. Il faut donc que pendant un certain temps, les petites mutations soient forcément limitées et n'affectent pas trop les individus. Et puis d'un seul coup, au bout d'un moment, il faut que ces mutations soient suffisamment fortes pour engendrer des nouvelles espèces. Or, le problème, c'est que le registre fossile est totalement lacunaire. Alors Darwin a dû faire intervenir des espèces qu'il a appelées des espèces intermédiaires, qui ont été devenues célèbres sous ce nom de chaînon manquant. Et évidemment, ça a été principalement focalisé autour de l'idée du singe, avec le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Tout ça s'est enraciné dans la conviction d'une évolution lente et graduelle, et donc Darwin est obligé de supposer qu'il y a une lacune des documents fossiles, puisqu'on ne les trouve pas, ces formes transitionnelles absentes. Et donc, comme on ne les trouve pas, eh bien, il invente ce terme de chaînon manquant. Et ça va faire, évidemment, tout ce qu'il faut pour que les créationnistes puissent s'investir.
Oui, c'est au départ une conception scientifique, darwinienne même.
Tout à fait. C'est un concept nécessaire pour rendre compte de l'évolution par accumulation lente des mutations. Mais très vite, cette idée, elle va être contestée par d'autres scientifiques. D'abord, c'est pas si évident que ça que l'évolution soit lente. Il y a des scientifiques modernes qui supposent qu'il peut y avoir tout un ensemble d'autres choses qui interviennent. Notamment, par exemple, la théorie des monstres prometteurs, où on a développé l'idée que certains gènes pouvaient avoir des effets beaucoup plus grands que ce qu'on pouvait supposer. Donc c'est pas forcément graduel. Et puis il y a eu Pierre-Paul Grasset, en France, par exemple, qui a opposé à la théorie graduelle de Darwin l'existence d'espèces panchroniques. Alors les espèces panchroniques, c'est ce qu'on a appelé longtemps, vous savez, les fossiles vivants. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui semblent avoir immobilisé leur évolution à un moment donné. En dépit de toutes les modifications de la planète, on dirait qu'ils n'ont pas bougé. Alors on peut y reconnaître par exemple l'Atherias, un lézard, un espèce de gros lézard, le sphénodon, ou encore l'ornithorynque, que vous connaissez bien avec son bec de canard, ou bien encore des poissons comme les selacanthes du groupe des Latimeria, qui, tout les uns et les autres, sont ressemblants aux mêmes formes qu'ils avaient au Crétacé. On dirait que les espèces qu'on pêche, qu'on trouve actuellement, sont exactement les mêmes que celles du Crétacé. L'ornithorynque, par exemple, il était quasiment contemporain des grands dinosaures de la fin du Crétacé. Et il est quasiment le même maintenant, plusieurs millions d'années plus tard. Alors du coup, si les contraintes physiques extérieures ne semblent pas soumettre ces individus-là à des changements, c'est que peut-être que, finalement, la sélection naturelle, nous dit Pierre-Paul Grasset, n'est pas si importante. C'est-à-dire que peut-être que c'est plutôt la dynamique interne des êtres vivants qui pourrait s'avérer l'une des causes de leur évolution, en provoquant, par exemple, un accroissement de la complexité des êtres vivants. Alors, il restait toujours à en définir le principe scientifique. Mais on voit que c'est un discours qui, en quelque sorte, en trouvait la porte pour tous ces gens qui vont après, évidemment, s'infiltrer dedans pour dire « Ah, mais vous voyez, les scientifiques ne sont pas tous d'accord, etc. » En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'une lente sélection naturelle ne peut pas rendre compte de tous les phénomènes, et notamment de ce phénomène de ces apparents arrêts évolutifs.
En outre, on ne trouve jamais ces fameux chaînons manquants. Ils restent invisibles. Pourquoi ?
Eh bien, pour les néo-darwinistes, si on ne les trouve pas, ces fossiles intermédiaires, c'est parce qu'il y a un manque de recherche. Les paléontologues ne chercheraient pas assez et ces carences-là ne seraient finalement que le reflet de ce manque de recherche. Donc il faudrait qu'il y ait plus de fouilles et non pas des chaînons manquants. C'est-à-dire que cet élément-là nous laisse entendre que finalement ils sont présents, mais qu'on ne les trouve pas. Alors évidemment, c'est quand même un petit peu incohérent, et donc le créationniste va pouvoir y imposer sa vision en disant, puisqu'on ne les trouve pas, c'est que ça ne marche pas, c'est que ça n'existe pas, et qu'il y a donc eu des créations répétées. En fait, l'absence de ce registre fossile va même permettre aux créationnistes de démontrer en quelque sorte qu'il n'y a pas eu d'évolution. Évidemment, c'est une grave erreur, et évidemment, les choses peuvent s'expliquer, heureusement, bien différemment.
Чорний ряд з золотим вагони, все приходять і ползуть на поклони, плітуть свободи на небеса.
І пройдуть
раю, повірте нам. Глибоко губи, склони цвітай, відот протестуючих знову з конвой. Саме цей день, що мені оскорбить.
Жителям устрашайте, любі!
C'était la Punk Prayer des Pussy Riot qui leur a valu bien des déboires et bien des ennuis pour avoir osé défier la religion orthodoxe.
Eh oui, ce n'est pas simple de se positionner et de s'opposer à la dominante. Donc, pour en revenir à notre histoire de chaînons manquants, en fait, l'absence de ces chaînons manquants, de ces fossiles intermédiaires, a dû poser un vrai problème aux évolutionnistes militants au début du XXe siècle, quand on sait combien les darwinistes étaient tout aussi virulents que les créationnistes.
Alors c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Les néo-darwinistes, les premiers darwinistes ont surtout essayé de construire la vie de l'évolution, en réinventant un petit peu Darwin, en reconstruisant l'intérêt de la sélection naturelle, en proposant par exemple le refus de la théorie de l'hérédité des acquis, etc. Donc ils ont tout retravaillé sur tout ça. Mais ça suffisait pas, il y avait quand même toujours une absence de ce fameux registre fossile. Alors, si les premiers darwinistes ont eu besoin d'imposer la théorie, c'est aussi parce qu'elle avait quelque chose d'extraordinairement révolutionnaire dans le sens où elle était très matérialiste. Avec Darwin, on proposait quand même un mécanisme fondamental, la sélection naturelle, appuyée sur la concurrence, pour proposer que l'évolution se soit construite à travers, finalement, des interactions individuelles. Le problème que va générer toute cette théorie-là est multiple. D'abord, évidemment, il y a toujours cette idée que ça peut aller vers quelque chose de plus ou moins bien et de plus ou moins parfait. Et puis, on va voir qu'il y a d'autres problèmes qui se posent avec l'idée de la sélection. Mais en tout cas, c'est sûrement ce problème des chaînons manquants qui a conduit un jour à l'invention de l'homme de Piltdow. Alors, l'homme de Piltdow, c'est une chose un petit peu bizarre, c'est un fossile qui a été découvert durant l'été 1899 par des ouvriers qui ont, alors je passe tout le, toute la manière de faire, enfin ils ont apporté au bout d'un moment à Charles Dawson un crâne apparemment endommagé, mais apparemment ancien. Alors ce crâne, il a fallu qu'il retourne un peu chercher d'autres morceaux, il a recollé tout ça, et puis ils ont découvert avec le crâne des dents et une mâchoire qui était totalement simiesque. Donc un crâne qui ressemblait à un crâne humain, une mâchoire qui ressemblait à celle d'un singe. Alors, il n'a pas fallu très longtemps pour que Dawson dessine immédiatement le fameux chaînon manquant. Alors, ces caractères simiens de la mâchoire et ces caractères humains d'une partie de la calotte crânienne donnaient quelque chose d'absolument exceptionnel. On avait un homme ancien ressemblant à des singes. Il était à moitié singe, à moitié homme. Il était découvert en Angleterre, donc le pays où on avait découvert l'évolution. Bref, tout ça, c'était parfait. Et donc, Woodward a tout de suite insisté sur le fait que c'était un être humain qui vivait à l'aurore de l'humanité. On lui a donné un nom latin. On a fait pas mal. Alors, le nom latin, c'est Eoanthropus. On en a fait des conférences, on en a fait des publications. Et puis, bien sûr, l'auditoire était toujours enthousiaste. Les scientifiques disposaient enfin d'une reconstitution de la tête d'homme de pied d'eau qui permettait de montrer qu'il était à moitié singe et à moitié homme. Alors évidemment, on voit là quels sont les éléments qui ont imposé petit à petit cette vision. Il fallait évidemment placer l'homme parmi les singes, mais en même temps, il fallait le placer parmi les singes évolués. Donc il avait la tête évoluée, mais la mâchoire pas évoluée. On voit très très vite que tous ces ossements qui vont devenir parmi les plus célèbres du monde, entre ces années 1899 et jusqu'en 1930, et on va voir même plus tard, eh bien, il va falloir évidemment construire, grâce à ce système-là, à cette découverte-là, toute l'idée de l'évolution qu'on va pouvoir imposer. Alors ça va beaucoup faire rire, évidemment, les créationnistes.
Le chaînon manquant tombait bien, car à l'époque, on ne pouvait envisager que l'Afrique soit le berceau de l'humanité.
Eh oui, vous imaginez qu'à l'époque, si on avait supposé que l'Afrique y était pour quelque chose dans l'apparition d'un homme intelligent, eh bien évidemment, ce serait complètement bouleversé les idées mêmes qu'on se faisait du colonialisme. Et donc, on ne pouvait pas. Il fallait que l'humain, celui qui était le plus intelligent de tous, soit arrivé en Grande-Bretagne. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, entre-temps, on a découvert d'autres ossements, et notamment en Afrique. Et que ces ossements africains, on a pu davantage les dater. Faut pas croire, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur cet homme de pied d'eau, mais une partie des travaux ont permis d'échapper à la connaissance scientifique parce qu'on travaillait surtout sur des copies en plâtre du crâne, de manière à pas l'abîmer, vous comprenez. C'est souvent comme ça que ça s'est passé en paléontologie. Évidemment, ces copies en plâtre ne permettaient pas tout, même si des gens avaient quand même des doutes. Et en fait, il a fallu attendre 1959 pour montrer définitivement que l'homme de Piltdown n'était en fait qu'un canular paléontologique. Alors, ce canular paléontologique, d'où il vient ? Pourquoi est-ce qu'on a enfermé dans la Terre, dans une carrière, à un endroit où on savait très bien que ça allait être découvert, une calotte humaine ancienne, relativement ancienne, qui venait probablement d'Afrique d'ailleurs, une mâchoire qui venait probablement d'ailleurs, mais qui était elle beaucoup plus moderne. Pourquoi est-ce qu'on les a mis ensemble ? C'était bien pour faire croire qu'il y avait un homme préhistorique là. Alors, les créationnistes, évidemment, disent que cette supercherie, elle a été faite parce qu'on n'avait pas de preuves en faveur de la théorie d'évolution. Et donc, sur tous les sites créationnistes, on retrouve ça. Oui, regardez, les scientifiques ont menti, etc. En fait, rien prouve que ce soit des scientifiques qui aient menti. À l'époque, quand on a découvert l'homme de Piltdown, effectivement, la supercherie était faite, il fallait la démonter. Et finalement, l'homme de Piltdown démontre que les scientifiques ont été capables de démontrer que c'était une supercherie. Donc on voit que c'est, finalement, l'argument créationniste n'est pas très très bon. Selon les évolutionnistes, il semblerait qu'il s'agisse d'une plaisanterie du jésuite Teilhard de Chardin qui avait envie, en fait, de faire croire aux Anglais que quelque chose existait chez eux. Enfin, passons. Toujours est-il que tout ça reste dans l'hypothèse qu'on ait eu des chaînons manquants. Or, l'autre problème, c'est celui du fait que les espèces, parfois, on l'a dit tout à l'heure avec Pierre-Paul Grasset, semblent montrer des espèces de stases évolutives. Or, ces stases évolutives, on ne sait pas si elles sont réelles ou pas. C'est même parfois totalement contestable. Par exemple, si on prend une définition néo-darwiniste très large, comme il s'agit de dire que les populations vont fixer des allèles différents, eh bien, on peut dire qu'il n'y a jamais, finalement, de stase évolutive. Même les animaux qui semblent ne pas bouger, comme le sélacanthe, par exemple, eh bien, vont présenter une évolution de leur gène au fur et à mesure, un changement de leur quantité de gènes et de leur phénotype petit à petit. Ça n'entraîne pas de grosses modifications organiques, mais finalement, l'évolution serait quand même là. Donc, on s'aperçoit que cette critique des stases évolutives est plus compliquée qu'on pourrait croire pour le moment, et on n'a pas vraiment de dessin parfaitement clair. les hypothèses des monstres prometteurs, pareil, de Richard Goldsmith, par exemple, aussi bien que l'hypothèse des équilibres ponctués de Gould, vont pourtant retenir l'idée qu'il y a des stases évolutives, dont on ne peut pas rendre compte, vous vous rappelez, dans le darwinisme, autrement que comme des lacunes de documentation. Alors pour Goldsmith et surtout pour Gould, il s'agit d'erreurs en fait d'interprétation. Dans la réalité, il y aurait bien des radiations évolutives rapides, et puis soudain, des longues stases dans lesquelles les espèces resteraient semblables à elles-mêmes. Et c'est à cause de cet élément que Gould se permet de dire qu'il n'y a pas d'évolution graduelle. En fait, nous dit Gould, puisqu'on n'a pas ces fossiles, on n'a pas ces formes transitoires, c'est tout simplement qu'ils n'existent pas. Alors il le dit avec une formule très simple, il dit ce ne sont pas des pages du registre qui manquent, c'est tout simplement qu'elles n'ont jamais été écrites. Et donc, évidemment, si dans le registre fossile, il n'y a pas d'espèces qui permettent de faire des liens, c'est que l'évolution n'est pas graduelle. Voilà pourquoi il a parlé d'une théorie des équilibres ponctués, c'est-à-dire que les espèces semblent s'équilibrer à un moment donné, puis c'est ponctué de grands sauts évolutifs. Donc pour Gould, il existe des sauts évolutifs et non pas une évolution graduelle.
Alors donc, si je ne te suis bien, la possibilité de sauts évolutifs, en fait, c'est la revanche des catastrophistes et de Cuvier.
Ah, c'est tout à fait ce que pense Gould. D'ailleurs, dans son dernier ouvrage, il dit de Cuvier beaucoup de bien en disant que ça ressemble au catastrophisme. Dans la réalité, si on est un petit peu plus attentif à ce qu'avait dit Cuvier, Cuvier, c'était quand même l'homme des catastrophes divines. C'était l'homme de toutes ces théories de la disparition des espèces à cause des fluctuations des océans, etc. Or, évidemment, cette idée de Cuvier servait surtout à dire que Dieu existait, puisqu'il recréait les espèces après leur disparition totale. Donc Gould est quand même très gentil de nous dire que Cuvier est en fait celui qui fait une revanche, en quelque sorte, sur les sauts évolutifs. Donc c'est comme ça, hein, Gould préfère Cuvier à Lamarck. Toujours est-il que la théorie de Gould nous montre que les catastrophes ont bien leur rôle en biologie évolutive. Alors, les espèces dites panchroniques, c'est-à-dire ces fameuses espèces qui sont comme arrêtées dans l'évolution, elles révèlent premièrement qu'il y a des limites étroites dans la variation, alors que le néo-darwinisme, lui, estime que la variation est infinie, et deuxièmement que la fluctuation génétique ne peut pas entraîner de spéciation, même à long terme, par un simple effet de dérive. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, un processus plus complexe pour que les choses se passent. En s'appuyant sur la seule variation génétique, on place ipso facto la dérive génétique au grand processus évolutif au même titre que la sélection sexuelle. Et donc, du coup, tout ça, ça réfute le néo-darwinisme orthodoxe. Bref, on est toujours dans la recherche de ce qui est une illusion.
One provides some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with me. One to buy some illusions, slightly you, just like you. Such romantic illusions, and they're all about you. I sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for love, some for tears. Want to buy some illusions, slightly you, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions.
C'était donc Marlène Dietrich, L'illusion. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, science en liberté. Revenons donc à notre histoire. Et on va revenir, en fait, à la bataille des hommes fossiles, n'est-ce pas Thierry ?
Eh oui, car comme on l'a dit précédemment, on a en fait découvert beaucoup d'hommes fossiles. Alors il faut savoir qu'avant même la découverte de l'homme de Pitdo, parce que dans les années 1830, on avait déjà découvert un enfant de Néandertal en Belgique, on en avait découvert un autre en 1848, mais tous ces ossements étaient très incomplets. Il a fallu attendre 1856, toujours dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, pour qu'on découvre le premier Néandertal. Alors c'était, ce Néandertal, il porte ce nom à cause de la vallée, tout le monde connaît un petit peu ça, et en fait ce crâne datait à peu près de 28 000 ans. L'hypothèse qu'il y avait donc ces hommes anciens n'était évidemment pas récente. Mais c'était compliqué de comprendre s'il s'agissait de dégénérescence ou s'il s'agissait vraiment d'ancêtres. En fait, vu leur crâne, on imaginait plutôt que c'était une dégénérescence parce que, évidemment, on préférait, d'un point de vue moral, cette dégénérescence à l'ancêtre. Et puis, toute la politique qui va se poursuivre dans ces années-là jusqu'à la prohibition de 1920, va évidemment conduire à établir une différence entre l'homme moderne qui serait lui beau et bien fait, et puis ceux qui sont dégénérés, sexuels ou alcooliques, qui évidemment vont ressembler à notre homme de Néandertal. Il va donc falloir beaucoup de temps pour qu'on l'impose comme étant l'un de nos proches cousins.
Oui, en plus, vers 1860, la découverte de l'homme de Cro-Magnon, en fait, on parle d'homme. Pourquoi toujours l'homme et jamais la femme ?
Ah, je t'attendais bien là. Eh bien, en fait, parce que certains fossiles sont en réalité des femmes. Mais en biologie, le nom d'espèce est toujours attribué au mâle, à l'homme. Alors, bien sûr, on devrait dire plutôt l'humain de Cro-Magnon. Mais ça, c'est une difficulté à faire passer en biologie. Alors, toujours est-il qu'il y a donc beaucoup de femmes aussi dans ces fossiles. Et évidemment, l'homme de Cro-Magnon est un petit peu complexe. En même temps, il nous ressemble. Et donc, on voulait un peu refuser de voir l'humain abaissé. Et donc c'est pour ça que les créationnistes n'ont pas voulu accepter l'idée de l'homme de Cro-Magnon. L'humain doit être moral ou alors il est un monstre. Et évidemment tout ça, ça va culminer avec le procès Scop.
Le fameux procès du singe aux USA en 1925, en fait, je crois, et qui opposait un darwiniste et des créationnistes.
Voilà, le procès Scop est beaucoup plus connu sous le nom du procès du singe, en effet. C'est un procès qui a eu lieu à Dayton, dans le Tennessee, aux États-Unis, entre le 10 et le 21 juillet 1925. Alors, il a opposé les fondamentalistes chrétiens, qui étaient défendus par un homme politique, hein, qui était également pasteur, procureur, etc., William Jennings Bryan, aux libéraux, qui eux étaient défendus par Clarence Darrow. Le jugement a vu la condamnation de John Thomas Scop, qui était professeur de l'école publique de Dayton. En fait, il était venu exprès dans cette école pour donner secours, qui était lui soutenu par l'Union américaine pour les libertés civiles. Et donc, John Thomas Scop a été condamné au versement d'une amende de $100 parce qu'il avait enseigné, enfin, ou plutôt parce qu'il avait utilisé un livre qui traitait de la théorie de l'évolution. Lui-même s'était dit innocent lors de ce procès. Or, il y avait une loi dans l'État du Tennessee, le Butler Act, qui interdisait aux enseignants de nier l'histoire de la création divine, telle qu'elle est enseignée dans la Bible.
Mais il me semble que tu m'as dit que les darwinistes ont été bien contents de perdre ce procès. Pourquoi ?
Oui, parce que ce procès était en fait un stratagème. Ils ont cherché à trouver des gens qui accepteraient justement de passer en procès pour parler du darwinisme et essayer de l'opposer à l'Église à l'époque qui détenait le monopole éducatif. Et donc ce stratagème avait aussi été associé au but des libéraux qui, eux, voulaient faire abolir le Butler Act. Et donc ça a permis une résonance complète dans tout le pays, bien que Scop fût condamné à avoir utilisé ce livre, il l'avait emmené avec lui, et même sans avoir enseigné l'évolution. Il n'empêche que la victoire médiatique a été attribuée aux évolutionnistes parce que ça a permis de parler de Darwin, du darwinisme et de l'évolution.
Alors c'est devenu un acquis. L'humain est un animal comme les autres.
Oui, alors si on réfléchit bien, la grande majorité des philosophes ont longtemps refusé de réduire l'humanité à la vie des singes. À chaque fois, on a dit oui, mais l'homme, il est au-dessus de ça, il a le langage, il a le rire, il a autre chose. Mais bon, en même temps, c'était pas tellement révolutionnaire d'associer l'homme au singe en 1860 ou lors du procès Scop en 1925, puisque dès 1758, Linné, qui lui était créationniste, avait déjà placé l'homme dans la classification des singes en tant que biologiste, et Buffon, qui est encore plus audacieux, puisqu'il a fait, lui, une parenté, il a établi qu'il existait une parenté entre les humains et les singes. Quant à la marque, quelques mois plus tard, hein, vers 1799-1802, eh bien, en fondant sa théorie de l'évolution, il ne s'effraie pas du tout à l'idée d'une relation de parenté étroite entre les singes et l'homme. Ainsi, Lamarck, par exemple, dans son chapitre sur quelques considérations relatives à l'homme, dans un livre de 1802 qui s'appelle « Recherche sur l'organisation des corps vivants », a établi tout un scénario de l'hominisation. Il établit en fait un scénario qui explique que l'homme est descendu du chimpanzé, ou est très proche du chimpanzé, qu'il appelle à l'époque le Joko.
La gueule grise de suquérance, même plus d'humour pour me cacher, faut que ça avance. J'ai ni vu ni connu, sûrement que je n'ai jamais eu de chance. j'étais drôle. Avant, j'étais drôle. Faut que ça avance. Dieu, faut ça pousse. Dieu, faut ça pousse. Dieu, faut ça pousse.
C'était 26 Spinel, il faut que ça pousse. Alors, à partir des années 30, la volonté d'amélioration morale des humains a conduit à une application de ce qu'on a appelé l'eugénisme. En fait, cette évolution est acceptée, les étoiles, la chimie de l'évolution sont en place, il ne reste plus que la morale. D'où, dès la fin de la guerre, on va voir apparaître un renouveau créationniste qui va s'appuyer sur la morale pour faire ressortir un espèce d'intégrisme encore plus obscurantiste. Ça se voyait peut-être moins dans un monde rural et isolé, mais maintenant, comme il y a plus d'accès à l'information et au savoir, évidemment, ce révisionnisme est devenu de plus en plus visible.
Donc, révisionnisme...
Tu vas y arriver.
Égal, oui, j'y arrive. Égal, en fait, une certaine dénégation de l'histoire. Hein, et le créationnisme dénie l'histoire évolutive. Mais pourquoi contre Darwin en particulier ?
Alors, contre Darwin en particulier, aussi parce qu'il l'a un peu cherché, hein, d'abord. Il faut voir que c'est toujours ce problème du processcope, du gradualisme, etc. Ouais. Et puis de la focalisation sur le problème du singe. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres choses qui vont se jouer. Par exemple, une grande part de l'argumentation des créationnistes parmi les plus agressifs s'est emparée de certains écrits de Darwin qui sont restés très, très ambigus. En effet, le gradualisme de Darwin, associé à l'hypothèse des chaînons manquants, ça continue à faire recette, mais... Ce sur quoi les créationnistes se jettent surtout leur dévolu, c'est la thématique de la sélection naturelle et l'eugénisme en fait qui existe dans le darwinisme.
En effet, hein, j'ai remarqué qu'il existe bien des citations ambiguës sur les races inférieures et le besoin de sélectionner les humains les moins faibles.
Oui, c'est pas tout à fait un hasard si au départ Clémence Royer s'était montré dans sa traduction si eugéniste, si proche en fait de théories racistes. C'est aussi parce qu'on peut finalement tirer de tout ça de Darwin. Alors, il n'est pas question d'affirmer que Darwin soit à l'origine du racisme ou à l'origine de l'eugénisme, ni de dire que le darwinisme a inspiré ces horreurs. Elles existaient bien avant lui. Mais on ne peut pas nier que le darwinisme ait connu ce que, en général, on nomme pudiquement ces dérives extrémistes, ces dérives eugénistes ou racistes. Et ça, on ne peut pas l'en affranchir en un seul trait de plume. En fait, il faut bien voir que Haeckel, notamment, Weismann, Huxley, ont inventé un darwinisme très sélectif pour pouvoir en faire un darwinisme adaptatif. Et à la suite de Francis Galton, ils ont contribué, ces auteurs darwiniens, à la montée de l'eugénisme contre ce que Galton appelait les inutiles et les classes inférieures.
En fait, d'ailleurs, dès 1862, dans sa première traduction française du livre de Darwin, Clémence Royer retient le darwinisme comme l'un des fondements évident de l'eugénisme, et aussi elle applaudit à tout cela.
Oui, parce qu'à l'époque, tout le milieu du siècle et jusqu'à la fin, jusqu'à le milieu du XXe siècle, pardon, on va retrouver cet eugénisme qui est cette amélioration possible des humains grâce à la génétique. Ça va beaucoup, beaucoup faire d'effet, ou grâce à l'hérédité. Et donc, on va avoir de créer dès les années 1880, je crois que la première c'est 1883 pour être précis, en Grande-Bretagne, on va voir se créer des sociétés eugénistes et qui vont demander qu'une politique eugéniste soit mise en place.
C'est terrible.
Ah oui, c'est terrible, d'autant que cet eugénisme va vite être mis en place. Donc ça, évidemment, l'idée c'est la logique d'un déterminisme héréditaire des physionomies et des comportements. Hein. On retrouve aussi cette hypothèse de comportement héréditaire dans certains pans de la science évolutive, hein, notamment sur la science comportementale. Mais l'influence de l'eugénisme a été considérable aux États-Unis, où il a induit dans les années 30 au moins 21 000 stérilisations de handicapés, d'homosexuels ou de criminels, et de pauvres. Alors les pauvres étaient définis évidemment autre chose. Et l'objectif affiché de la loi de 1921 aux États-Unis, c'était de réduire les idiots, les infirmes et autres membres inutiles de la société. Alors, on connaît en fait très très mal l'ampleur du phénomène qui a été beaucoup caché, dont on n'a pas beaucoup parlé. Bon, il a été retrouvé dans de nombreux pays, et puis aux États-Unis, il a en plus été relayée par une politique ségrégationniste, la politique raciste qui a existé jusque dans les années 70. Enfin, ça a été aboli dans les premiers États en 1954 aux États-Unis, on se souvient de ça. Quant en Europe, évidemment, alors l'Allemagne nazie a élaboré un eugénisme à un rythme quasi-industriel qui a stérilisé des centaines de tziganes, d'infirmes, d'handicapés avant d'organiser l'horreur concentrationnaire en se focalisant davantage sur les juifs et les résistants. Donc ça a masqué un petit peu son eugénisme.
Oui, c'est bien compliqué tout ça, mais en fait, si j'ai bien vu les choses, la France fut un pays un peu à part.
C'est vrai. L'importance des thèses évolutionnistes, notamment néo-lamarckiennes en France, qui vont, pendant toutes ces années-là, dans les années 30 notamment, contester le darwinisme, va considérablement contenir l'expression de l'eugénisme. Il va falloir attendre la montée de Pétain, mais même pendant l'occupation, on s'aperçoit que cet eugénisme ne va pas être très très présent. En même temps, d'ailleurs, que le darwinisme n'est pas très présent, ce qui suggère à contrario que l'eugénisme est quand même un petit peu lié au darwinisme. Alors aujourd'hui, on retrouve cet eugénisme notamment en Asie, avec les phénomènes d'avortement sélectif, par exemple, pour essayer de diminuer le nombre de petites filles à la naissance, ou encore la possibilité de séquencer le génome humain qui a permis de développer, d'une manière de plus en plus officielle, des politiques eugénistes. En Chine, par exemple, il y a toute une politique eugéniste qui porte sur les surdoués. Alors c'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. Ouais. Hein. Là, on n'essaie pas de tuer des gens, on essaie d'en favoriser d'autres, et de faire que cela se reproduise davantage en empêchant la naissance de ceux qui sont pas voulu. Alors il y a d'autres pays aussi qui admettent des recherches de ce type, par exemple à titre médical, et puis bien sûr l'eugénisme va persister d'une manière voilée, comme le divulguent par exemple les prétendues découvertes sur les gènes du criminel, le syndrome 47 par exemple, sur les chromosomes X, Y, Y, mais aussi sur d'autres points. Hein. On se souvient par exemple qu'un président de la République française, il n'y a pas encore très très longtemps, disait, puisqu'on peut trouver les gènes du criminel chez les enfants de 3 ans, pourquoi pas les traiter dès ce moment-là, quoi. L'eugénisme est encore présent, au moins d'une manière voilée.
Ah, il faut s'en méfier. Mais en fait, tout cela s'est appuyé sur des idées de la sélection naturelle.
Oui, alors c'est vraiment très compliqué, quoi. Le problème, c'est est-ce que c'est l'idée de la sélection naturelle qui a autorisé cela, ou est-ce que c'est parce que c'était déjà des idées admises que Darwin parle de sélection? Tout ce qu'on peut dire, c'est que Darwin a écrit son ouvrage en 1859, principalement, ça a été republié en 62 et ensuite, surtout les versions de 1870 qui restent présentes, et que Galton a fondé la société d'eugénisme dans la foulée, en 1883. Galton était quand même le cousin de Darwin, il se connaissait bien, d'ailleurs Darwin a toujours applaudi à ce que faisait Galton, tout en disant qu'il n'était pas forcément totalement d'accord. Alors, évidemment, je répète, il ne s'agit pas de dire ici que Darwin a participé à une politique raciste ou eugéniste. Non plus qu'il ne s'agit pas d'accuser tous les biologistes d'avoir accompagné les bourreaux. Hein, les décisions ont été politiques, il y a eu des vrais bourreaux. N'empêche qu'il y en a qui ont quand même montré une certaine passivité face à ce phénomène.
Oui, le problème, c'est qu'Indimo, quelque part, on peut se dire qu'on semble.
Et, en plus, ils n'ont pas fait que consentir en ne disant rien.
Certains, hein. Oui, tout à fait. Donc, en 1978, il y a une phrase de Francis Crick qui dit « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé certains tests génétiques. Et s'il échoue à ces tests, il perd son droit à la vie quand même. »
Alors ça, c'est une phrase qui est maintenant bien connue dans le monde parce que ça a été publié dans un journal important. Et Francis Crick, c'est quand même un prix Nobel de biologie. Avec Watson, c'est celui qui a découvert la structure de l'ADN, après d'ailleurs l'avoir un petit peu emprunté à Rosalind Franklin, mais enfin ça serait une autre histoire hein, de parler du machisme en sciences biologiques. Toujours est-il que la profusion des louanges qu'on met sur le darwinisme, ça tente aussi bien souvent de désolidariser Darwin de ce qu'on appelle le darwinisme social, ou même parfois de ce qu'on appelle la sociobiologie. Le problème, c'est que c'est assez difficile de désolidariser le vrai Darwin de cela et que parfois, je trouve, personnellement, hein, qu'on invente un petit peu trop Darwin. Alors, certains auteurs disent non, on retrouve des petites phrases dans lesquelles Darwin nuance ses propos. Bon, c'est assez compliqué. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que Huxley, qui était probablement de gauche, a quand même été, après Francis Galton, le président de l'Eugenic Society, de la British Eugenic Society, c'est-à-dire de la société anglaise pour l'eugénisme, et que c'est Leonard Darwin, le fils de Darwin, qui a encore présidé cette société après. Et puis, il semble quand même assez invraisemblable de prétendre cacher le racisme, le colonialisme et l'eugénisme de la plupart des premiers darwiniens.
C'est pas simple, finalement. On est scientifique, mais aussi humain. Donc, tout cela ne justifie en rien, bien évidemment, le créationnisme.
Non, non, le créationnisme, évidemment, pas du tout légitimé ni justifié par cela. Par contre, il utilise ces termes-là pour montrer que dans la science, il y a quand même des phénomènes qui ne sont pas moraux. Alors, c'est pas totalement faux. Il faut bien reconnaître que la science est quand même parfois problématique, surtout quand on accepte de tolérer ces choses-là. Toujours est-il que le créationnisme est un révisionnisme historique qui va renforcer l'intégrisme religieux, même s'il s'appuie sur des vraies phrases, contre le progrès des sciences, contre la libération des mœurs et contre les femmes. Et en plus, ce créationnisme s'accommode parfaitement bien du capitalisme. Bon, une partie de la biologie aussi, hein, s'accommode très bien du capitalisme. Mais en tout cas, il ne faut jamais oublier que des gens ont été torturés ou assassinés par toutes ces politiques eugénistes. Il ne faut pas oublier que, malgré tout, des biologistes les ont assises, hein, y compris en France. Hein, d'ailleurs, il y a eu des biologistes pour dire ça. Et il faut évidemment ne pas oublier que les choses doivent changer et qu'il faut arrêter de torturer ou d'assassiner des gens au nom de ces politiques-là. Après, reste à savoir évidemment comment tout ça peut se passer.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplante bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Oh vous les boutefeux, oh vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
C'était l'inoubliable Georges Brassens. Donc, les obscurantistes nous ont dit qu'il fallait remettre en cause l'histoire et la science. C'est un révisionnisme qui utilise un argumentaire scientifique, puisque, évidemment, il faut bien remettre en cause le réel. Mais ce confucianisme a un seul but, celui de faire passer des notions morales. Et comme on est dans une crise de la science, puisqu'au lieu d'apporter le progrès attendu, c'est surtout le capitalisme qui a profité du développement technologique, ce qui évidemment va susciter des critiques contre les OGM, les nanotechnologies, la biométrie, les vaccins, l'hégémonie médicale, évidemment, tout ça va nous conduire à nous interroger vers quoi on va. Et les créationnistes jouent sur ces interrogations critiques pour nous dire que la science n'est pas solide. Alors il faut reconnaître que la théorie évolutive s'est aussi montrée parfois très tolérante avec des idées fantaisistes, sinon même contradictoires avec le darwinisme. On note ainsi une incroyable tolérance envers les religions dans les publications scientifiques et même des jugements de valeur sur la supériorité supposée de certains organismes.
Mais nos sociétés acceptent aussi des pensées magiques, et même au sein des biologistes.
En effet, il y a bien de curieuses concessions qui accompagnent les raccourcis que font certains chercheurs. Ainsi, par exemple, comment admettre scientifiquement ce tour de passe-passe qui a permis à Peter Scott de donner un nom d'espèce biologique au monstre du Loch Ness, alors qu'évidemment, il faut admettre ici que figurent dans la nomenclature scientifique des êtres fabuleux. Alors, c'est pas sans rappeler quand même des obscurantistes médiévaux. Il faudrait d'ailleurs pas sous-estimer l'ampleur de cet ésotérisme, largement encouragé chez nos contemporains par nombre de revues et d'enquêtes bidons, puisqu'il n'y a pas très très longtemps encore, une analyse révélait que 40% des Anglais croyaient en l'existence des gnomes et que près de 50% des gnomes et des esprits hein, en général, et que près de 50% des Américains restaient persuadés qu'il y avait eu des visites d'extraterrestres sur notre planète.
Que ne faut-il point entendre ? Le créationnisme n'est pas que religieux, alors.
Non,
ça me trouble.
Tu te laisses un peu troublé par nos avis extraterrestres. Eh bien oui, le créationnisme n'est évidemment qu'un révisionnisme au milieu d'un ensemble de thèses intégristes et réactionnaires. Donc il peut avoir des aspects laïques. Le créationnisme non religieux, c'est l'apanage de mouvements sectaires, par exemple dont les plus connus c'est la scientologie ou encore les raéliens, hein, qui vont nous parler aussi d'extraterrestres. Ce détournement de la biologie de la logique scientifique, utilise principalement la théorie d'information génétique et avalise son usage par l'espèce de confusion qui va persister autour du terme patrimoine génétique, ancêtre unique. Bref, ce créationnisme peut parfaitement être laïque et évidemment laisse ouvrir la porte à tout un ensemble d'éléments comme la vie extraterrestre. Il faudra d'ailleurs qu'on en reparle un jour parce qu'on ne comprend pas à quel point ces choses-là peuvent lier ce projet particulièrement religieux avec de la morale puritaine et parfois évidemment, toujours même, associé à la volonté d'une société autocratique.
Someone to pull you out of that ditch, you're out of luck, you're out of luck. Ship is sinking, the ship is sinking. The ship is sinking, there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind, who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves and warriors, got some. Shovel in the pit, it's a job, it's a job. Money motorizing with the plague and the front to the mob, join the mob.
Nous écoutions sur Radio Libertaire Tom Waits, God's Away on Business.
Et nous voilà toujours à la recherche d'une meilleure compréhension de ce créationnisme, crétationnisme qui empoisonne la biologie. Alors le fait que le rôle de la sexualité résiste encore à la théorie néo-darwinienne, qui n'arrive pas à éclaircir d'une manière satisfaisante par la sélection naturelle d'où vient et ce qu'est le sexe, ça constitue aussi un moyen pour les créationnistes de révéler l'ampleur supposée de la méconnaissance scientifique. En fait, c'est souvent les difficultés explicatives de la science qui vont servir aux créationnistes à invalider le discours biologique et évidemment par contre-coup à essayer d'entériner leurs propres propos sectaires.
Alors en fait, comment lutter contre la pensée magique et contre le mensonge créationniste ? Faut-il se montrer vraiment tolérant envers ces idées ?
Ah non, parce que rassurer les autorités religieuses sur le fait que l'histoire évolutive serait compatible avec la religion ne pourra évidemment jamais pacifier l'intégrisme. Ou alors, il faudrait que les biologistes nient le caractère matérialiste des conceptions évolutives, ou encore qu'on réduise l'évolution à une espèce d'histoire sans importance pour l'humanité. Il y aurait l'homme d'un côté et puis les animaux de l'autre. Alors, comme il y a beaucoup de forums chrétiens, juifs ou islamiques qui apparemment dits modérés n'hésitent pourtant pas à nier tout principe d'évolution, et que maintenant on sait que même la hiérarchie religieuse accompagne ces négations.
Effectivement, le pape lui-même a dit que l'évolution n'était pas compatible avec la foi catholique.
Et je suis bien d'accord avec lui du coup, car les scientifiques devraient tous s'affirmer athées et même se faire débaptiser pour montrer leur volonté de se débarrasser de ces préjugés magiques. Il est évident qu'on ne peut pas penser scientifiquement, avoir des raisonnements scientifiques en acceptant le fatras d'une révélation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on raisonne si d'un côté on accepte de ne pas raisonner mais d'accepter une révélation divine. Alors le problème vient surtout du fait que la biologie, dont les créationnistes et les conservateurs essayent de tirer leur caution, c'est une biologie qui n'existe pas. Ils inventent leur propre biologie, leur propre nature. Donc la stratégie de lutte contre ces obscurantistes ne peut pas simplement se réduire à engager des objections scientifiques en disant « oui, vous vous trompez, votre discours est révisionniste et vous vous trompez ». Il faut au contraire considérer le créationnisme et son intégrisme comme une totalité sociale en tant qu'idéologie de la confusion, au même titre que le furent le racisme ou le fascisme. Le créationnisme ne constitue qu'un révisionnisme biologique au sein d'une puissante idéologie politique réactionnaire qui exige par ailleurs la fondation d'une société contrainte par des règles normatives absolument restreintes et qui soumettent les mœurs de chacun à une police tyrannique. C'est pas parce qu'ils disent que le sexe n'a pas d'explication néo-darwinienne qu'eux seront pour la libération des mœurs. Bien au contraire.
Mais quelles autres stratégies contre le créationnisme ?
Eh bien, comme toujours, hein, comme toujours, les seules stratégies qui nous restent disponibles, c'est évidemment de ne jamais leur laisser le monopole éducatif, mais bien au contraire, essayer de faire son possible pour rendre accessible la science, ce qu'on essaie de faire avec nos petits moyens, et sûrement pas très bien, pas assez bien, de lutter contre l'appropriation de la nature par la morale. La morale, il n'y a pas de morale dans la nature, jamais. Toutes les conduites existent et il n'y a aucune morale dans la nature, ce qui est logique, hein, la nature ne se conduit pas de cette manière-là. Décortiquer les obscurantistes et puis tout ce qui fait la peur de la science, parce que effectivement la science a aussi beaucoup raté de choses, elle induit aussi des tas de problèmes, des choses qui sont pas du tout normales et qui sont pas claires, et il faut donc émanciper cette science d'un scientisme froid et puis bien sûr d'un scientisme qui serait tout explicatif pour la rendre accessible au plus grand nombre. C'est ça l'avenir, c'est ça les seules possibilités, c'est la seule manière de dire enfin qu'on s'arrête avec les bêtises créationnistes et autres soucoupes volantes.
Your soul. And have they told you how to think? Cleansed your mind of sepsis and autonomy? Or have you escaped scrutiny and regaled yourself with depravity? Now we all see unnecessary in our expanding global cultural efficiency.
Le groupe Bad Religion, God Song. Alors évidemment, on fait le tour de tout ce qui nous a conduit à voir apparaître le créationnisme, mais de quelque côté que l'on cherche, il ne semble pas vraiment que le vivant s'apparente à cette amélioration technique que ces gens-là proposent. En fait, la pseudo-hiérarchie du vivant construit aussi des arbres phylétiques très factices avec des espèces qui seraient au-dessus des autres. On sait maintenant qu'on a plutôt affaire à un buissonnement d'espèces. Et la complexité apparente des êtres vivants ne constitue pas du tout un principe d'évolution, mais plutôt la conséquence provisoire d'un ensemble d'ajustements bricolés. Le vivant n'est pas non plus une machine, c'est un peu plus compliqué que ça. Il réalise des autonomies à partir de ses propres constituants. Et donc l'analogie avec la machine est un peu fallacieuse, parce qu'on pourrait croire qu'il y a un guide qui nous conduirait à atteindre des machines de plus en plus perfectionnées. Or, ce n'est pas on n'a pas de il y a pas de but dans le vivant. Il y a pas une amélioration des procédures organiques. Tout ça se passe d'une manière totalement liée à des petits phénomènes, des petites transformations. L'analogie culturelle aussi est fallacieuse, car si nos systèmes artificiels, nos ordinateurs sont mis en œuvre pour atteindre un but singulier, et donc le principe d'un perfectionnement guide en fait les astuces et les stratagèmes de cette mise en place de systèmes artificiels. Au contraire, le vivant multiplie les anomalies et les approximations. Tout se passe comme si, plutôt que de retenir un processus plus optimal possible, l'évolution ajoutait des bricolages qui ne tiennent l'ensemble que par un hasard, une efficacité provisoire. C'est en cela que l'évolution se révèle comme une histoire évolutive. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de corps parfait. L'essence même de la chair demeure l'imperfection absolue. Puisque le partisan d'une religion approuve le fait d'assujettir sa réflexion à ses croyances, il dénie ainsi l'usage de sa propre raison. Et par conséquent, il faut redire qu'un scientifique ne peut pas être croyant sans empoisonner la science qu'il prétend réaliser et empoisonner lui-même. Voilà. Au revoir Siona, à bientôt de prolonger ces discussions.
Et au revoir Thierry et touche les auditeurs et auditrices en continuant de toujours apprendre.
Et oui, auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou par l'email de l'émission. Alors l'email de l'émission c'est sciencelibre@gmx.fr au singulier.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste pour décortiquer la biologie et les idéologies qu'elle porte. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona, Christelle et Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur... Père Ubu, waiting for Marie.
Eh non, c'est sur les rats, enfants, un problème. Nous n'avons pas trouvé le bon disque, c'est pas grave.
Ma mère me colle des barres, paraît que je l'énerve. Elle veut que je trouve un taf. Je me tire de chevel, mais moi je préfère sonner toute la journée. Faudrait indemniser les jeunes retraités. J'ai des conneries, faut pas m'en vouloir. C'est parce que je